RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble, nous recevons Patrick Kanner. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes président du groupe socialiste au Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler du budget, le débat sur donc le budget qui a commencé hier soir. La gauche avait voté en commission 60 milliards d'impôts supplémentaires, en plus des 20 milliards prévus par Michel Barnier sur le volet recettes. Certains parlent de boucherie fiscale. Est-ce que vous répondez justice fiscale en voulant taxer les super-profits, les super-dividendes, les revenus des expatriés, les armateurs, la France ? N'est-elle pas déjà malade de trop d'impôts ?
Déjà, regardons les chiffres. Boucherie fiscale, matraque, délire fiscal.
Concours Lépine.
Concours Lépine. Mais concours Lépine, il y a souvent de bonnes choses.
Hein, c'est vrai.
Concours oui. Lépine. Non, vous savez, regardons les chiffres. Depuis 2017, sur la moyenne des 10 ans de ces deux quinquennats, on est aujourd'hui d'ailleurs à la moitié du quinquennat, deuxième quinquennat, second quinquennat pour être précis, de M. Macron, on aura détruit environ 58 milliards d'euros de recettes fiscales par an. 58 milliards d'euros de recettes fiscales par an. Puisque c'était le dogme du moins d'impôts. Donc la volonté d'Emmanuel Macron, c'est...
Avec François Hollande, il y avait trop d'impôts, donc là...
Oui, alors François Hollande, il y a eu un choc fiscal au début du quinquennat, mais il y a eu un résultat. À savoir qu'on était sous les 3%, donc le critère de Maastricht, de déficit, une dette publique relativement maîtrisée.
Là, il y a moins de chômage, quand même.
Mais les résultats du chômage sont aussi liés au travail qui a été fait. Vous savez, le chômage, c'est un paquebot. Hein, et donc, les résultats sont tombés plus tard que ne l'aurait espéré François Hollande, mais ils sont tombés. Et c'est finalement Emmanuel Macron qui en a principalement profité. Mais une fois cela dit, 58 milliards de destruction fiscale, par rapport aux 60 milliards de recettes fiscales nouvelles qui ont été votées en commission et puis balayées aussi en commission à la fin, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent. Après, est-ce qu'il fallait y aller par étapes ? Sûrement. Il y a eu des majorités de circonstances. Vous avez évoqué la gauche, mais non. Il y a la gauche. Le MoDem a été associé à certaines propositions. Liotte, un groupe centriste, a été aussi associé. C'est globalement après le RN qui a été une nouvelle fois le juge de paix. Qui pour moi est le surveillant de l'action gouvernementale, pour ne pas dire l'influenceur de l'action gouvernementale, qui a dit on arrête les frais. Donc on se retrouve avec le budget initial, qui à mon avis finira dans un 49-3 généralisé à l'Assemblée.
Est-ce qu'il n'y a pas en France, chez les gouvernants depuis longtemps d'ailleurs, et peut-être plus particulièrement à gauche, l'idée que les contribuables sont un peu comme des citrons que l'on a pressés, mais même quand on les a pressés, il peut toujours rester quelques gouttes à en retirer?
Prenons l'exemple de la taxe d'habitation. Je suis sénateur, donc responsable, en tout cas représentant les collectivités territoriales. On a supprimé la taxe d'habitation en 3 ans.
Vous dites on a supprimé, c'est Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, mais je dis on, parce que quelque part, il l'avait annoncé aux Français. Ouais. Il faut le reconnaître qu'il avait dit en 2017.
C'est un de ses grands arguments de campagne.
Voilà, je supprimerai la taxe d'habitation. Donc ça a été fait, donc il a respecté un engagement de campagne. Le résultat, c'est qu'il a fallu compenser en recette pour les collectivités locales, cette taxe d'habitation, notamment pour les communes. Est-ce que vous savez le chiffre que ça représente dans le budget de l'État ? Presque 23 milliards d'euros. 23 milliards d'euros qui donc disparaissent des caisses de l'État, puisqu'il faut compenser la perte pour les communes. C'est un peu compliqué, je vous le concède. Le seul problème, c'est que dans ces 23 milliards d'euros, il y en a à peu près 10 qui ont profité, à qui ? Aux plus aisés de nos concitoyens. Est-ce qu'il est normal que moi, Patrick Kanner, sénateur avec un revenu correct,
je ne paye pas
ma taxe d'habitation? Moi, j'ai un appartement, je suis propriétaire d'un appartement de 72 mètres carrés à Lille. Ma taxe d'habitation, je crois, était de 1700 euros. Je ne la paye plus. Donc, c'est vrai que j'ai 1700 euros.
Vous voudriez la repayer?
Moi, j'aimerais la repayer, oui. Je vous le dis comme je le pense. Je ne demande pas à ce que les autres, les 80%, la repayent, mais j'aimerais que, quelque part, c'est 9-10 milliards d'euros.
Et à partir de quel salaire vous pensez qu'il faut repayer ça ?
Les 20%, c'était les 20% de plus aisés qui avaient été ciblés par le Conseil constitutionnel en disant mais tout le monde doit payer ou ne pas payer. Donc, voilà. Et ça, c'est 9-10 milliards d'euros
C'est rare les gens qui lèvent le doigt pour payer des impôts, mais vous en faites partie.
Je suis socialiste, je suis un homme de gauche, et je considère que quand j'utilise les services publics de ma ville, bah, c'est pas normal que je les paye. Voilà un exemple concret, vous voyez.
Est-ce qu'on peut aussi s'interroger sur l'utilisation qui est faite de cet argent public? Parce que le niveau d'imposition est quand même globalement très élevé en France. Or, on voit des services publics qui se détériorent. Cet argent est mal utilisé, non?
Oui, mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a un décalage.
Moins d'impôts, mieux avec moins d'impôts.
C'est sûrement ça. Il faut faire ce travail, même si aujourd'hui, on est plus à enlever les services publics, notamment en secteur rural, ce qui d'ailleurs fait monter le Rassemblement national. Très concrètement, quand vous regardez les courbes, c'est une des explications principales. Les gens en ont marre de ne plus avoir de poste, de ne plus avoir de services de proximité, de crèche ou de maternité. Donc, oui, il faut sûrement réexaminer les choses. Mais ce n'est pas en saccageant finalement cet avoir fiscal qu'on aura réglé les problèmes. La question, c'est qu'on a supprimé des impôts, mais qu'on a continué à dépenser parfois mal, et que donc aujourd'hui, on est dans un phénomène de ciseaux qui se traduit, vous l'avez compris, par un déficit qui devient insupportable. On va être à 6% de déficit, donc deux fois plus que ce qui nous est autorisé par l'Europe à la fin de l'année 2026. Et je ne suis pas certain que ça améliore.
6,1 ou
6,2 ?
Non, mais 6,1, quoi.
6,1, donc c'est... Enfin, le Mozart... Non, mais le Mozart de la finance, c'était M. Le Maire. Ou le Beethoven du roi...
Le Mozart de la finance, c'était Emmanuel Macron.
Oui, mais le maire avait repris l'expression. Ou le Beethoven du ruissellement. Enfin, tout le monde, ils se sont retrouvés des joueurs de piano mécanique. Qui jouait faux, quoi. Donc, c'est quand même très inquiétant. Alors, on me dit souvent, oui, mais sur les 1 000 milliards de dettes de Macron, parce que c'est ça, 1 000 milliards de dettes, il y a 300 milliards qui sont venus pour le Covid. C'est vrai, 300 milliards. Mais je ne les regrette pas, parce que moi, j'ai voté ce quoi qu'il en coûte, parce qu'il fallait sauver la France, mais il reste 700 milliards.
Oui, alors, justement, quand on entend une partie de la gauche dire l'argent a été mal géré, on a laissé filer cette dette, le quoi qu'il en coûte, effectivement, vous avez l'honnêteté de dire que vous aviez voté, mais tous, peut-être, ont voté, mais aujourd'hui, considèrent que ça a été mal fait, mal ciblé. Mais est-ce que ce n'est pas cocasse de voir la gauche aujourd'hui critiquer ces dépenses, quand on regarde le programme du nouveau Front populaire, qui était de, je crois, 150 milliards d'euros d'ici 2027. Oui, il y avait pouvoir d'achat, services publics, etc. On dépensait 150 milliards la gauche avait gagné.
150 milliards si on avait gagné et si le budget le permettait. Donc voilà.
Maintenant vous raccrochez.
Non, mais moi, je le dis de manière responsable, je dis 150 milliards, c'était un objectif, c'est l'idéal, comme disait Jaurès, mais il faut tenir compte du réel. Donc, mais aujourd'hui, c'est la saignée pour tout le monde. Et je vais vous donner un autre exemple chiffré. On va être l'année prochaine à 70 milliards de charges de la dette, c'est-à-dire rien que les intérêts. Et si on continue comme ça, on sera à 80 milliards dans deux ans, soit plus que le budget de l'éducation nationale. Moi, j'ai appartenu à un gouvernement où la charge de la dette était non pas le premier poste budgétaire, mais le troisième après l'éducation et la défense. Donc, excusez-moi de le dire avec un peu de force, mais souvent la gauche vient en pouvoir quand la droite a géré de manière catastrophique. Peut-être que ça se prépare.
Patrick Kanner, le cas de Lucie Castet en fait surface et divise le nouveau Front populaire.
C'est pas gentil le cas de Lucie Castet, c'est Madame Lucie Castet.
Oui, mais on va parler de son cas, c'est ça que je voulais dire. La France insoumise voulait qu'elle soit candidate sous son étiquette dans une législative partielle dans l'Isère. Elle ne voulait pas, entre guillemets, s'enchaîner à LFI et proposait d'être une sorte de députée volante qui serait passée de groupe en groupe pour faire, disait-elle, une espèce de trait d'union. Résultat, le PS pourrait maintenant présenter son propre candidat. Quel regard vous portez sur cette situation? Est-ce que ce n'est pas la vieille politique à la papa dans sa mauvaise acception?
C'est une situation improbable. Lucie Castet serait une excellente députée. Moi, je l'ai croisée plusieurs fois.
Est-ce qu'il vous permet de le dire?
Ah ben parce que j'ai travaillé avec elle. J'ai travaillé avec elle, c'est une femme sérieuse, je veux dire qu'il connaît ses dossiers. Donc, et je l'ai vue quasiment faire passer un grand oral à l'Élysée le 22 août, quand M. Macron, de manière gourmande, a réuni tous les partis politiques en sachant parfaitement qu'il ne ferait pas confiance à la gauche pour aller au pouvoir. Bon, je vais faire la parenthèse. Donc, elle sait faire. Donc, elle serait une excellente parlementaire. À partir de là, la situation était plombée d'avance, permettez-moi l'expression. Je veux dire, LFI avait obtenu cette circonscription. Ils perdent leurs députés pour les raisons que vous savez, mais ils sont toujours, entre guillemets, chez eux, dans la circonscription de l'Isère. Je ne sais plus quel numéro de circonscription c'est, mais peu importe. Mm-hmm. Donc Lucie Castéiva, ils demandent à ce qu'elle soit dans leur groupe. Très honnêtement, l'homme politique que je suis n'est pas choqué de cette demande. La question qui est posée, c'est est-ce que, pour permettre à Lucie Casté d'exister politiquement au niveau national, LFI, qui a beaucoup soutenu Lucie Casté, aurait pu dire « bon, ben voilà, je fais un geste ». On a gagné cette circonscription, mais avec quelqu'un qui est poursuivi par la patrouille, donc on l'a perdu. –
Pour des affaires à caractère sexuel.
– Exactement, parce que c'est, donc on a perdu, il a démissionné, et donc quelque part, il n'avait plus de droit peut-être de regard. Ils n'ont pas voulu cela. Ça vous montre comment LFI considère finalement la candidature de Lucie Casté, qui devrait, à mon avis, réfléchir sur sa place dans tout cet organigramme.
On va parler de la Nouvelle-Calédonie parce que vous faites une proposition de loi, mais juste avant et très vite, quand même, parce que on sait que vous n'êtes pas très pro-LFI, mais est-ce que le Parti Socialiste doit tout faire, peut-être au prochain congrès, pour se défaire de l'emprise de la France Insoumise ?
Le nouveau Front Populaire a été utile. Il a permis des alliances. Il a surtout permis pour moi, ce qui était important, ce Front républicain. Nous avons été les premiers à dégainer cette idée du Front républicain qui a été repris par d'autres, sauf par LR d'ailleurs, il faut le souligner.
Non mais ça, on connaît effectivement
le. Voilà. Donc,
il a permis au PS de reprendre un peu le poil de la bête aussi.
Oui, alors, donc NFP, très bien.
Mais c'est pas ma question.
La question que vous posez, c'est est-ce que nous avons un avenir avec LFI? Moi, je considère que l'avenir du PS, c'est d'abord le PS. Et un PS central, force motrice de la gauche de gouvernement. Et je ne veux pas que mon parti politique soit le supplétif de l'ambition personnelle de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République. Oui, c'est ce qui se passe, mais donc ce sera un des thèmes du congrès. Moi, je souhaite un congrès au printemps 2025 pour clarifier notre ligne politique. Jean-Luc Mélenchon sera candidat, quoi qu'il arrive. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut amener la gauche au pouvoir? La réponse est non. Oui. La réponse est non, je vous le dis comme je le pense. Voilà, peut-être qu'il me détermine, peut-être qu'il pourra par son action et sa campagne me dire que j'ai eu tort, mais je ne le crois pas. Il a été candidat déjà 3 fois, il n'a jamais passé la barre du second tour.
Qui d'après vous pourrait refaire du Parti Socialiste un parti conquérant?
Je pense que la question est moins aujourd'hui l'incarnation, il en faudra une, que d'abord revisiter notre projet politique, je dirais même notre projet idéologique. C'est quoi aujourd'hui la social-démocratie européenne, féministe?
François Hollande
Je vous ai dit l'incarnation après. Donc d'abord le projet politique. À partir de là, on pourra bâtir une stratégie électorale et d'alliance. Et d'alliance avec qui? Parce que le projet politique va impacter les alliances électorales et après viendra l'incarnation. Et je vous concède qu'aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. Mais je ne suis pas certain, personnellement, de la solution. Mais pour moi, la vraie question, c'est est-ce que nous sommes avec Jean-Luc Mélenchon dans une logique supplétive? Et je pense que c'est lui ou nous, c'est lui ou nous. Alors que je pense, et on l'a montré avec Raphaël Glucksmann et d'autres, que nous sommes capables de bâtir avec d'autres une alliance plus large. Et je veux faire basculer le barycentre, même si Jean-Luc Mélenchon...
Vous êtes un des rares à le dire.
Mais je le dis, je l'ai toujours dit.
De la gauche.
Parce que moi, je veux que la gauche revienne un jour au pouvoir. Et je pense que ce ne sera pas... dans une soumission à LFI.
Vous avez fait une proposition de loi qui sera donc examinée demain pour reporter les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie à fin 2025. Est-ce que vous considérez, que le sujet a été maltraité par Gérald Darmanin et qu'il a laissé pourrir la situation et qu'en quelque sorte, vous allez au secours du gouvernement avec cette PPL,
projet de proposition de loi. Surtout au secours de la Nouvelle-Calédonie et de la France. Et je suis heureux que le nouveau gouvernement, au travers de M. Barnier, le 1er octobre, décide de ne pas réunir le Congrès sur la question du dégel du corps électoral, c'est un peu technique, mais surtout de dire qu'il faut reporter les élections pour se redonner du temps. M. Darmanin, il y a été à la SERP, voilà, il n'y a pas d'autre mot, avec la bénédiction d'Emmanuel Macron. Le résultat, c'est 13 morts, dont 2 gendarmes, des familles endeuillées, plein de blessés, des centaines de blessés, 2,2 milliards d'euros de travaux, enfin de destruction, 2,2 milliards à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, c'est monstrueux, naturellement. On est à un taux de chômage de 30 ou 40% aujourd'hui. Donc c'est une situation cataclysmique. Les médecins s'en vont, parce qu'ils ont eu peur pendant les événements.
Des problèmes d'accès à l'eau, terrible.
C'est
des problèmes d'accès à l'eau.
Accès à l'eau, enfin, il y a des émeutes de la faim qui se préparent parce que le système social n'est pas le même en Nouvelle-Calédonie qu'en France. Il n'y a pas de RSA, par exemple. Donc, c'est cataclysmique. Donc, quand Barnier, Michel Barnier dit « on reporte les élections et on se remet autour de la table », il a raison. Retrouver l'esprit des accords de Matignon-Oudinot et des accords de Nouméa. Et le projet de loi qui aurait dû venir du gouvernement n'est pas possible parce qu'ils ne sont pas dans les délais pour pouvoir reporter les élections. Alors ça, là aussi, c'est un peu technique, mais si le 17 novembre, il n'y a pas une loi qui est promulguée pour reporter, eh bien, on est foutu. Et ils ont trouvé le texte de Patrick Kanner et d'autres sénateurs socialistes pour être le véhicule législatif. Donc, je sauve un peu la mise du gouvernement.
Mais Patrick Kanner, est-ce que vous pensez que tout de même, à un moment donné, il faudra dégeler le corps électoral calédonien, qui, en l'état actuel des choses, prive un certain nombre, et ils sont nombreux, de Calédoniens, du droit de vote aux élections provinciales?
C'est évident, mais pas de la manière dont l'a fait M. Darmanin. Voilà. Il a voulu forcer le destin, alors que le temps du palabre en Nouvelle-Calédonie est un temps sacré. La coutume est un temps sacré. Donc... vous savez, quand Rocard fait les accords de Matignon, quand Jospin fait les accords de Nouméa, ils ont pris du temps. Ils ont respecté ce temps qui n'est pas le nôtre. J'ai eu la chance d'aller en Nouvelle-Calédonie, j'ai la chance de rencontrer régulièrement mes amis Kanak au travers du FLNKS dans ces différentes sensibilités. Et oui, il faut du temps. Et il faut leur laisser le temps du dialogue. Et Michel Barnier a raison. Et c'est pour ça que je l'aide. Il a raison de se donner un an pour retrouver cette voie de l'apaisement et de la sérénité. L'ancien gouvernement, en quelques mois, quelques semaines, quelques jours, a bousillé, permettez-moi l'expression, 36 ans de paix sociale. 36 ans de paix sociale depuis 1988. En quelques mois. Catastrophique. C'est l'acmé de l'obstination, de l'entêtement d'Emmanuel Macron.
Très rapidement, un petit mot sur l'accord sur la vente de Doliprane par Sanofi à un fonds américain, qui va donc passer par l'entrée de la France, de l'État, au capital, à hauteur de 1 ou 2%. Est-ce que cet accord vous paraît satisfaisant?
La présence de l'État à 1 ou 2%, c'est vraiment une tartufferie extraordinaire. C'est pas avec un siège qu'on empêchera ce fonds de pension. Il veut rentabiliser ses investissements. Oui. Donc si demain ce fonds de pension décide de délocaliser la production, mais il le fera. Et donc les soi-disant, on l'a vu avec Alstom et d'autres, les soi-disant engagements du nouveau propriétaire, moi je n'y crois pas un seul instant. Donc le décret Montebourg aurait dû s'appliquer, c'est-à-dire de bloquer cette vente. Mais voilà, Sanofi passe au-dessus des intérêts de l'État. Même si on sait qu'il y a Doliprane, il y a d'autres médicaments que Doliprane.
Merci Patrick Kanner.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci à Flore Simon et à Sigrid Azeroual. À bientôt Frédéric.
À la semaine prochaine.
Merci à vous et merci à toute l'équipe technique.